Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous sur Radio Judaïka à l'occasion du 80e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz. France Télévisions va proposer une programmation spéciale et dans cette programmation, il faut noter un documentaire « Auschwitz, les survivants racontent » avec la réalisatrice qui est avec nous. Bonjour Catherine Berschneid.
Bonjour Monsieur Chekroun.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la réalisatrice de ce documentaire. On va en parler dans un instant en détail. Juste avant, vous pouvez vous présenter à nos auditeurs.
Oui, bonjour. Je suis réalisatrice de documentaire. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et en particulier sur le génocide qui s'y est perpétré. Voilà.
Alors, vous, je l'ai dit, vous serez un documentaire sur Auschwitz. C'est quoi la difficulté quand on commence un documentaire? C'est de trouver des nouveaux des personnages, des nouvelles histoires, des nouveaux témoignages?
En l'occurrence, là, ce qui est spécifique à notre époque, c'est que c'est la fin des témoins. Mmh. Parce que malheureusement, nous sommes à 80 ans, comme vous l'avez dit, de commémoration et de la fin de la déportation. Mmh. Et la question qui se pose, c'est comment raconter ce crime alors que les survivants disparaissent. Or, tous les survivants ont un jour témoigné et souvent devant une caméra. Ça a pu être devant la Fondation Fortunoff ou devant la Fondation Spielberg. Mmh. Et il s'avère qu'en 2006, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, alors présidée par Simone Veil, mmh. et l'INA, l'Institut National du Visuel, ont décidé de recueillir les témoignages de 47 personnes mmh. qui ont été déportées à Auschwitz.
Alors, justement, sur votre documentaire, c'est ça qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a 5 épisodes, de chaque fois 40 minutes où vous avez séquencé les commentaires, en tout cas les histoires de chaque personne entre 5 moments. Vous pouvez nous les raconter, nous dire pourquoi ce séquençage-là?
Oui, alors le parti pris du film, c'est de faire découvrir aux téléspectateurs Auschwitz uniquement et uniquement de la perspective des prisonniers, et pas n'importe quel prisonnier, uniquement des prisonniers juifs qui avaient un statut spécifique à l'intérieur du camp. Et on a chapitré le film en 5 parties. La première partie, c'est les persécutions, c'est-à-dire de l'arrivée d'Hitler au moment de la déportation. Mmh. Comment, brusquement, dans toute l'Europe occupée, une chasse à l'homme généralisée va être organisée à l'encontre des Juifs. La deuxième partie, c'est la déportation, c'est-à-dire l'arrivée au camp. Comment, de toute mmh. l'Europe, vont arriver vers un seul et même point ces personnes-là. Mmh. Bien sûr, il y a eu d'autres camps de concentration pour les Juifs et de centres de mise à mort. Mmh. Mais là, je travaille uniquement sur Auschwitz. La troisième partie, c'est la vie concentrationnaire, enfin la non-vie concentrationnaire, devrais-je dire. La quatrième partie, c'est comment ces déportés vont se retrouver les uniques témoins de ce que les nazis cherchent à cacher à tout prix, c'est-à-dire la mise à mort industrielle. Donc le quatrième épisode s'appelle « Extermination ».
Oui.
Et le cinquième s'appelle « La vie après », c'est-à-dire ces survivants-là, comment sont-ils sortis d'Auschwitz?
Alors, il y a beaucoup de témoignages, 44 exactement. Il y en a un à nous, à Strasbourg, qui nous parle, enfin deux, qui nous parlent un peu plus, celui de M. Kahn et celui du rabbin Rosen, qui sont tous les deux habitants à Strasbourg, en tout cas, qui ont habité à Strasbourg. Comment on choisit les survivants par rapport au fait qu'ils soient vivants ou pas, où il y a eu un choix à faire?
Alors là, en l'occurrence, tous ces témoignages ont été enregistrés en 2006 et je n'ai pas fait de choix. C'est-à-dire que j'ai utilisé l'intégralité des témoins. Il y avait 47 personnes qui avaient été déportées à Auschwitz. 3 avaient refusé que leur image soit utilisée à des fins autres que patrimoniales. et les 44 autres sont dans le film, certains une seule fois, d'autres deux
plusieurs
ou trois,
fois, ouais.
Et d'autres reviennent, comme M. Rosen n'apparaît, je crois, qu'une seule fois
pour raconter
la spécificité de ses souvenirs en Pologne, en l'occurrence. Et il n'y a pas de choix, j'ai suivi le... En gros, c'est les déportés, les anciens déportés eux-mêmes qui font avancer le récit.
Alors, on l'a dit, il y a différentes parties, et moi je voudrais m'arrêter sur la partie où vous racontez, où les survivants racontent comment ça se passait dans les camps. Il y a eu des montages ?
Des montages dans le film ?
Oui, dans les discussions avec les survivants, un montage à l'intérieur de certaines scènes ou pas ?
Bien sûr. Enfin, c'est-à-dire que il y a chaque survivant, quand il a été enregistré, a témoigné pendant 2, 3, voire 6 ou 7 heures. Donc, il y a plus de 150 heures de témoignages et je les transforme en 3 heures et demie. Donc, bien entendu qu'il y a des montages. J'ai essayé, par contre, à l'intérieur d'un récit d'une personne, de respecter sa parole et de ne pas lui faire dire autre chose que ce qu'il dit, mais il y a bien sûr montage, je suis obligée.
Alors, on rappelle que ce documentaire, il sera diffusé quand exactement ? Parce que à France Télévisions, on n'a pas vu me dire la date exacte et l'heure de la diffusion.
C'est pile le jour commémoratif, à savoir le lundi 27 janvier à 21h10 sur France 2. Et ce qui est extraordinaire, et je tiens à saluer le service public, c'est que de 21h10 à minuit et demi, il va y avoir 3h20 de survivants qui racontent.
Votre documentaire sera diffusé en entier d'un coup ?
Oui, exactement.
D'accord, les quatre parties.
C'est formidable qu'on donne la parole... que le service public permette au plus grand nombre, parce que France 2 est la télévision la plus regardée, et bien au plus grand nombre d'écouter leur récit, parce que leur récit, du fait qu'ils soient nombreux, devient histoire. Vraiment, c'est extraordinaire à entendre. Et je sais que parmi la communauté juive, beaucoup de personnes connaissent cette histoire, mais dans la communauté non juive, c'est souvent appris par des historiens, des professeurs, mais c'est abstrait. Or là, grâce à ces personnes, et pas une personne, ni deux, ni trois, mais 44, brusquement, on découvre ce que c'était que d'être juif dans les années 30 et dans un camp de concentration.
Alors, Catherine Bernstein, quand on fait un documentaire comme ça, il y a un vrai travail de préparation. Vous avez lu, vous avez documenté, ou c'était uniquement le fait de recevoir les témoignages des survivants ?
Alors, il y a d'abord il s'avère que j'étais une des 3 intervieweuses de tous ces témoins il y a une vingtaine d'années. Parallèlement à ça, il y a un travail de documentation parce que pour chaque témoin, il y a une histoire spécifique et ce n'était pas pareil si on était en zone occupée ou pas en zone occupée, si on était en Allemagne, en Pologne, en Roumanie ou en France. Mais aussi, toute la série documentaire a été intégralement supervisée par l'historien de la Shoah, Tal Brutman, qui connaît ce sujet
comme personne. Ouais. Alors, ce documentaire, donc, c'est 4 petits documentaires qui seront 5, autant pour moi, qui seront diffusés. Donc, le jour, c'est-à-dire le lundi 27 à 21h sur France 2. Quand on démarre comme ça un documentaire sur 5 parties, à quoi on fait attention ? À la véracité des choses, en
bien
l'occurrence.
Bien sûr. Ah non, mais ça, c'est sûr que s'il y avait une personne qui disait quelque chose d'approximatif ou qui ne pouvait pas, qui avait exagéré quelque chose, on n'aurait pas pu le garder, mais ça n'a pas été le cas. Honnêtement, c'était... mais des fois, certains témoins racontent des choses tellement terrifiante que j'étais obligée de faire vérifier par Tal Brutman, qui me confirmait malheureusement qu'ils avaient bien assisté aux horreurs qu'ils racontent. Quoi fait-on ? Je vais vous dire, il y a un point commun entre tous ces témoins. C'est que tous ne sont obsédés que par une seule chose, c'est de respecter la parole de ceux qui sont morts à Auschwitz, à savoir, il faut que le monde sache. Et c'est ce que j'ai essayé, avec mon savoir-faire de réalisatrice, que leur parole soit entendue grâce au travail de montage, parce que personne ne va écouter 5 heures Gabriel Bénichou ou André Kahn ou Marceline Loridan-Evans parler. Par contre, du fait qu'ils soient nombreux, ça crée un rythme qui participe au fait qu'on peut entendre ce récit.
On fait une pause musicale, on va écouter Jean Ferrat et on se retrouve tout de suite après.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka, deuxième partie de l'émission spéciale qui sera consacrée lundi prochain à 21h15 sur France 2, Auschwitz. On parle d'Auschwitz. Pourquoi spécialement, Catherine Bostein, Auschwitz et pas un autre camp, ou les autres camps en général?
Alors, parce que il y a une spécificité à Auschwitz. La première, c'est que c'est le plus grand camp de concentration nazi. La seconde, ce qui est pas évident, c'est que c'est énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul lieu. C'est un camp, le premier camp, Auschwitz 1, qui va être entouré de 50 camps satellitaires. Mais surtout, c'est là où il va, à côté du camp de Birkenau, être installé le centre de mise à mort. Et Auschwitz est devenu, au niveau mondial, le symbole absolu de l'extermination des Juifs. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu travailler, malheureusement, pour les autres centres de mise à mort, qui n'étaient pas aussi des camps mixtes, c'est-à-dire camps, centres de mise à mort, camps de concentration. Il n'y a pas de survivants de Treblinka, de Sobibor, de Belzec, de Chemno. Là, les personnes arrivées et étaient tuées tout de suite, immédiatement. Et du coup, on a des survivants d'Auschwitz qui peuvent raconter le centre de mise à mort. Donc, je réponds un peu dans le désordre, mais...
Ouais, c'est très bien.
Il y a Auschwitz est le symbole de ce crime absolu.
Quand on écoute certains survivants raconter, il y a des fois où on est un peu malmené parce que c'est tellement horrible. Vous avez la même réaction en écoutant, en regardant ?
Oh oui, on était avec la monteuse, on a écouté plus de 150 heures de témoignages et je peux vous dire que dans cette petite salle de montage où nous avons passé 8 mois, on est passé par toutes les émotions et souvent des émotions bien terrifiantes.
Donc, on le rappelle, parce que c'est important, c'est le lundi 27 janvier à 21h10 sur France 2. Ça a été facile de convaincre une chaîne de télévision de vous diffuser ?
Alors, dès le départ, France Télévisions a voulu soutenir ce projet et ça devait passer sur France 5. Mmh. Et puis, cet hiver, ils ont décidé de mettre en valeur cette série documentaire et ils ont décidé de le passer sur France 2.
Alors, on va revenir. Combien de temps vous avez pris pour, si on comptait tout, le montage, le tournage, c'est combien d'heures de travail ?
Ça s'est étalé sur 2 ans.
Le fait que vous mettiez des gens qui sont décédés comme Simone Veil, vous vous êtes posé la question de savoir s'il fallait intégrer son histoire, même si elle était plus là.
Alors, il s'avère que tous ces témoins ont été filmés il y a 20 ans. Donc, ils sont malheureusement beaucoup sont décédés. Pendant longtemps, Simone Veil avait signé un document auprès de l'INA et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, comme quoi elle refusait qu'on utilise son témoignage. Mmh. Et puis, il y a 2 ans, ses filles sont relevées cet interdit et elle voulait pas qu'on l'utilise parce qu'elle avait peur de tirer la couverture à elle. Mmh. C'est sa notoriété. Et ce qu'elle voulait, c'était qu'on entende la parole des autres. Et j'ai l'espoir d'avoir respecté sa parole, c'est-à-dire qu'elle intervient pas très peu, et en tout cas pas plus que les autres témoins.
Quand on a parlé un peu de cette émission entre vous et moi, vous me disiez, il y a beaucoup de gens qui se posent la question qui est la suivante, c'est pourquoi autant de Juifs n'ont pas réagi. Les Juifs étaient 3 fois plus nombreux que les nazis dans les camps d'extermination. Pourquoi ils ont été manipulés aussi facilement, je dirais ?
Je pense pas que les... Je m'insurge contre l'idée que les Juifs sont allés aux chambres à gaz comme les moutons à l'abattoir. Ça a été un... Ça a circulé au début, malheureusement, aussi par Ben Gourion.
C'est une question qu'on peut se poser.
Mais parce que regardez le documentaire et vous verrez que c'est impossible quand on arrête une mère et son enfant dans son appartement. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse?
Et on rappelle que...
La résistance française, évidemment, vous alliez dire probablement la même chose, beaucoup de Juifs se sont engagés dans la résistance. Et pas que des Juifs français, des Juifs étrangers, et qui l'ont payé de leur vie. Donc,
et si vous voyez le documentaire, on donne la réponse. Parce que la façon dont les Juifs ont été envoyés dans les camps de concentration, c'était après 7 heures ou 7 jours de voyage, sans manger, sans boire, fatigué, etc. Donc, c'est bien expliqué dans le reportage. Je vais vous poser une question, je pense, qui va vous poser beaucoup aussi de choses. C'est, est-ce que dans tous les récits que vous avez entendus, il y en a un en particulier qui vous a plus touché que d'autres?
Oh, c'est difficile. Ouais. Non, sur les personnes, moi j'en ai interviewé un tiers. Et évidemment, celles que j'ai interviewées, quand on se retrouve seul pendant un jour ou deux, enfermé dans un espace clos, intime, qui était ce studio à l'INA, se crée un lien très très fort entre la personne qui témoigne et moi-même. Donc évidemment, quand j'entends Gabriel Benichou, par exemple, que j'ai la chance d'interviewer, ou Denise Toros-Marter, qui est vivante et qui est à Marseille, et qui est vraiment... évidemment, je suis particulièrement touchée, ou Frida Geldwehr. Mais sincèrement, ce que je trouve extraordinaire, c'est que je n'ai pas monté les 44 personnes pour les avoir toutes, mais j'ai suivi de manière empirique la force de leurs paroles, et c'est à la fin qu'avec la monteuse, nous nous sommes aperçus que tous avaient été montés. Donc c'est pour vous dire que tous m'ont marqué, pour une raison ou pour une autre.
Alors, Catherine Bernstein, est-ce que finalement, à la fin de ces documentaires, vous qui avez travaillé sur le sujet, vous avez appris des choses?
Énormément. Et pourtant je connais mieux ce sujet pour l'avoir travaillé beaucoup dans des documentaires. Mais là, sincèrement, c'est incroyable. Incroyable. Parce que ce n'est pas des chiffres, des millions, des groupes, c'est des personnes, et brusquement on s'identifie à elles, mais à travers la multiplicité, eh bien c'est incroyable, on découvre énormément de choses. Donc je recommande à vos auditeurs, même s'ils croient connaître le sujet, de regarder cette série, parce que sincèrement, on apprend énormément.
Donc ce sera, on le rappelle, le 27 janvier à 21h10 sur France 2. Vous avez des projets prochainement, Catherine Bernstein, peut-être dans le même moule?
Écoutez, je ne sais pas si France Télévisions va me suivre, mais j'aimerais énormément raconter l'histoire du génocide des Tziganes par les nazis.
Ah aussi?
Bien aussi. Sûr.
Qu'est-ce que vous avez à en dire, juste avant qu'on se quitte, à nos auditeurs, peut-être ceux qui ne connaissent pas cette histoire, qui vont dire, on va encore voir un documentaire avec des survivants, des témoignages. On a vu beaucoup, beaucoup. C'est quoi votre argumentaire pour dire qu'il faut voir votre documentaire absolument?
J'aurais du mal parce que je suis malheureusement pas vendeuse, mais de leur dire, regardez ne serait-ce que pour le premier quart d'heure, et si ça vous intéresse pas, arrêtez, mais à mon avis, sincèrement, vous ne regretterez pas.
Voilà. Alors, au pire, si des gens peuvent pas regarder, le documentaire sera évidemment à voir en replay sur le site de France Télévisions. Catherine Bernstein, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. On rappelle, lundi à 21h10 sur France 2. Merci beaucoup.
Merci beaucoup et à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Au revoir.